On va prier. Seigneur, merci pour cette parole ce matin et merci pour le fait que nous avons Dieu qui parle dans une saison, le dernier jour. Et nous sommes l'Église. Nous sommes là parce que nous sommes différents et on fait une différence. Merci. Nourris-nous avec cette doctrine importante ce matin. Merci. Amen. OK. Ce matin, je propose de parler de quelque chose très important. Très important pour nous. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. On va tourner là, je crois que nous avons. Super. Wow. Quelle vitesse d'avoir les versets déjà devant nous. Donc, je vais lire cette version, c'est la seconde. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et le mot clé ce matin dans cette plutôt un enseignement qu'une prédication, appelé. Le mot en grec, kaleo. Ça, c'est le verbe en grec, kaleo, dans la langue originale. Important pour le chrétien. Pas besoin de mémoriser. C'est pas important, mais de savoir, il y a une signification. Parce que nous, on pense, et pour moi-même, je peux dire certainement, que quand quelqu'un a parlé d'un appel chrétien, l'appel de Dieu, pour moi, aucune idée. Qu'est-ce que ça veut dire, un appel de Dieu? Des fois, nous avons une connexion. On met dans nos cerveaux une connexion. Ah, la vocation d'un pasteur. On pense, ah, c'est ça. Donc, pour moi, je n'ai pas un appel parce que je ne suis pas appelé d'être pasteur. Faux. Parce que l'appel de Dieu est pour chaque personne qui vit sur la terre. Un appel est important pour chacun de nous. Pas juste pour les pasteurs, les évangélistes, etc. C'est pour chacun de nous. On a une place dans le corps de Christ. Peut-être je vais reculer un peu de parler et dire, quel est l'appel de Dieu? OK, on va commencer là-bas. Une invitation. Kaleo, une invitation. Dans une signification, invité. Ça implique un choix, n'est-ce pas? Ce soir, il y a dans notre communion à Meunier une fête nationale fêtée là-bas et dans les autres communes aussi. Et donc, il y a quelque chose communiqué aux les habitants, une invitation est communiquée. Viens. Ici, c'est quelqu'un d'autre en train d'appeler avec cette invitation, c'est Dieu. Kaleo, invitation. C'est beau, n'est-ce pas? Parce que c'est vraiment le noyau de la foi chrétienne. Quelqu'un a tracé un chemin, un mot sur le quoi pour nous, et une invitation est offerte à tout le monde. OK. Jean chapitre 12, verset 32, une invitation. Christ invite tous les hommes. Matthieu, chapitre 22, verset 3. Un appel ou invitation à un souper, une noce, un mariage. Invitation. Viens. Jean, chapitre 21. Versets 19 et 21. Premier verset. Pierre, Jésus en train de dire, suis-moi. Un appel, une invitation. Verset 21. Ne quitte pas pour Jean, tu, Pierre, toi, suis-moi. Invitation. Donc, la première chose, si on met une couche, et c'est un appel ou invitation. Ça veut dire, on peut dire oui ou on peut dire non. Également, c'est Dieu qui nous a appelés. Ça veut dire, ce n'est pas nous-mêmes qui dire c'est mon appel et c'est moi qui initie l'appel. Dieu est initiateur. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans la Trinité. Le Père est le planeur. Le Fils exécute le plan et l'Esprit révèle le plan et révèle le Fils qui a exécuté, qui a fait et accompli le plan. Ça veut dire Dieu en permanence est en train d'initier vers des hommes, vers l'humanité, vers nous tous. Avec cette couche, on continue. Donc, une invitation. Maintenant, est-ce qu'il y a un appel ou plusieurs appels? Est-ce qu'il y a juste un ou plusieurs? Et ça, c'est le deuxième point. Les appels de Dieu. Le premier appel, la volonté de Dieu envers les non-croyants, envers chacun dans le monde, chaque personne sur la terre, homme, femme, jeune, enfant. Il nous appelle au salut. Notre but sur la terre est pour être en relation avec lui. Ça veut dire une invitation vers une relation, pas une invitation à l'Église. Ça, c'est après. Invitation. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Parle de cet salut. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On était un peuple sous la domination du diable. Éphésiens chapitre 2, verset 1, 2, 3. Un peuple oppressé, un peuple aveugle. On ne peut pas voir. Et on était dominé et contrôlé par notre ancienne nature, ça veut dire le vieil homme, ça veut dire la chair, ça veut dire mon héritage qui vient d'Adam. Mais le moment que j'accepte cette invitation, j'entre dans un autre royaume. Je suis sûr maintenant, et on a parlé dimanche passé, d'être du serviteur. Esclave du diable, mais maintenant enlevé et transformé et mis dans un autre royaume, serviteur aimé de Dieu. Le salut est une invitation à tout le monde. Pourquoi que c'est dit que Jésus-Christ, dans Jean 3,16, est mort pour toute l'humanité, afin que ceux qui croient en lui vont avoir la vie éternelle, une vie pour l'éternité, une relation avec lui. 2 Timothée chapitre 2, verset 4. Qui veut que vous tous, les hommes, soyons sauvés et parvenir à la connaissance de la vérité? Verset 3, j'en oublie. Ce qui est important, c'est le bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu, dans sa volonté, veut que chacun dit oui. Mais chacun, pas tout le monde, pas chaque individu va dire oui. Mais ça, c'est la seule chose que Dieu veut pour le non-croyant. Pas un membre de l'Église, pas quelqu'un avec une connaissance intellectuelle parfaite de la Bible, mémorisation. Les pharisiens sont les gens excellents, pas excellence, théologiens. La parole de Dieu, l'Ancien Testament, était dans ses pensées. Il peut observer tous les commandements, mais connaît pas le cœur de Dieu. On est appelé, si on est devant quelqu'un, c'est une application pour nous. On est devant quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ. Et on est là pour aider. Aide-moi, j'ai un problème avec mes finances. Aide-moi, j'ai un problème avec mon mari, ma femme, avec ma maison, avec ma santé. Oui, on peut aider. On est serviteur, n'est-ce pas? Serviteur de Dieu pour notre communauté. Mais on ne peut pas faire une chose, la chose la plus importante. C'est la chose d'amener quelqu'un à Jésus-Christ. Qui est la solution? Qui a la solution et il est la solution ultime. Donc ça veut dire la guérison pour l'âme, guérison peut-être pour corps, dans un moment précis, enlever les forteresses, aider avec les émotions. Donc sachons nous tous que si on est devant quelqu'un qui ne croit pas, la première chose est de dire, est-ce que j'ai dans mon cœur, j'ai une relation avec le Dieu vivant. Qui est la solution? Viens avec moi vers lui. Après, on peut discuter, bien sûr, on peut aider quelqu'un avec les finances, on peut aider avec les conseils. La première solution, salut pour l'éternité, ça, c'est la chose la plus importante. Et le monde a besoin de ça. Deuxième chose. Donc, le premier est pour tout le monde. Le deuxième, l'église locale. Ça, c'est important de savoir. On va parler beaucoup plus de ça bientôt dans le cours des actes et les voyages de Paul. Les voyages missionnaires de Paul. Mais pas ce matin. On ne va pas aborder le livre des actes. Église locale, chacun est appelé. Premièrement, on va mettre cette couche. L'Église universelle. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. On est tous baptisés par le Saint-Esprit dans le corps de Christ. Voilà. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, Saint-Esprit, pour former un seul corps. Le corps universel, chacun de nous. Ce n'est pas important la dénomination ni le nom de ministère. Ce n'est pas important le nom sur l'étiquette d'or, le placard, le panneau qui dit Église évangélique ou Église baptiste ou Église pentecostale. Ça, ce n'est pas important. Ce qui est important est est-ce que je connais pour sauver Jésus-Christ? Est-ce que je connais, je suis sauvé par lui, par le sang de Jésus-Christ? Est-ce que c'est par la grâce qu'il a donné, ce don de salut? Est-ce que si je connais lui et son esprit habite et demeure en moi, je suis né de nouveau en Jean chapitre 3, déjà, première chose. Deuxième chose, maintenant, parce que nous avons parlé d'un corps unique. Colossiens, l'épître de Colossiens parle de tête, Jésus-Christ. Éphésiens, l'épître d'Éphésiens parle de corps. Ça veut dire nous. Donc nous avons deux épîtres écrits par Paul qui parlent de la même chose. La tête en relation avec le corps et le corps en relation avec la tête. Et nous sommes le corps. Chacun est parti de ce corps universel, mais il est quelque chose. On est parti du corps universel, on est parti du corps de Jésus-Christ. Un jour, on va être enlevé, un jour, on va marier avec Jésus-Christ. On va dans ce mystère, l'Église et Dieu lui-même, Jésus-Christ. Mais il est quelque chose de plus. Épître de Éphésiens. Épître de Corinthiens, première. Les saints à Corinth, c'est le titre. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, peut-être on peut regarder, juste pour un exemple, 1 Corinthiens chapitre 1. Je vais tourner là. Hop. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère, Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinth. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Ça veut dire une église locale, un assemblée locale à Corinth. Un épître écrit pour les Éphésiens. Une église en Éphésus. Ça veut dire il y a une région, ça veut dire une église là-bas. Si on lit Apocalypse chapitre 2 et 3, on voit cette église. Chaque église était géographiquement placé. Chaque église a existé. Ce n'est pas quelque chose figuratif, c'est quelque chose littéral. Ça veut dire le phénomène, l'importance de savoir la réalité que les choses ont vécu ici. On a une église à Genève. Et dans notre ministère Greater Grace, les églises de la grâce, nous avons des églises à Paris, Nîmes, Montpellier et Lyon. Et aussi à Lausanne, ça c'est important, l'église avec pasteur José Rodriguez, prie pour lui, prions pour lui, s'il vous plaît. On est des églises locales. Ça veut dire que tu passes entre une église et l'autre. Tu visites une église. Tu vois le même esprit, tu vois une location, un endroit géographique différent, mais c'est le même peuple. C'est la raison que nous sommes connectés. On dit, ah, parce que c'est l'amour de Dieu. Parce que peut-être la langue change, mais les chansons peut-être adaptées dans la langue, mais c'est le même cœur, c'est le même esprit, c'est la même espérance. Pourquoi on parle de ça? Parce que chacun est appelé d'une église locale. Ça, c'est important de savoir. De savoir, on a un appel unique à une église locale. Exemple, pour les lettres sont planté missionnaire en Bénin. Et après, ils ont visité et resté un certain temps à Baltimore, notre église à Baltimore, aux États-Unis. Et après, ils sont retournés, ils sont venus ici, à Lausanne, et après, ici, à Genève. Ils sont avec nous depuis 4 ans. Voir le phénomène, Marion aussi, elle est plantée par le Saint-Esprit, bien sûr, de marier avec Horatio, mais elle était incorporée dans le corps de Christ local. Paul l'était, nous aussi. Moi, je suis venu d'Angleterre, planté dans cette église 17 ans en arrière. Voir qu'on est appelé chacun d'une église pour peut-être un moment précis, peut-être 10 ans, peut-être 20 ans, peut-être, je ne sais pas, 50 ans, peut-être 2 ans. Mais le mouvement de la vie d'une église locale est que certains vont partir ailleurs, certains sont appelés de rester, mais c'est un appel. Et chacun est appelé d'une église locale. Pourquoi que c'est important? Parce qu'on peut être partie de l'église globale, universelle, certains déjà avec le Seigneur, certains sur la terre. Mais quelqu'un manque rat, si j'excuse l'expression, qui marche côté de cet appel s'ils n'ont pas une église locale. Ils sont dehors, seuls, isolés. Bientôt, ça va être le temps de chasseurs en Suisse et en France. La saison de chasser, je vais faire la connexion, c'est quand les gens disent « Ok, c'est le moment de chasser des animaux. » Bang, bang. Le diable est chasseur et lui, il n'a pas une saison. C'est maintenant qu'il est saison pour lui et demain et l'après. Quelqu'un qui reste dehors de la couverture d'une église locale, pas dans l'appel local d'une église locale, et pas couverte par la parole de Dieu, pas couverte par un pasteur enseignant, pas couverte par le corps de Christ avec les prières, c'est la saison de chasse. Et le diable, le chasseur, un lion rugissant, va dire, « Ah, un croyant séparé de le corps. » Bang! Accusation, accusation, accusation. Le croyant déprime. Le croyant est isolé. Si on reste dehors de l'Église, on manque notre appel, et les choses suivantes ne peuvent pas passer parce qu'on arrête ici. Donc Dieu nous appelle premièrement au salut, deuxièmement à l'église locale. Maintenant, on est dans l'église locale. Super, excellent. Mais il y a quelque chose de plus. Le phénomène, le principe, l'importance d'être un disciple. Pierre, Jean, André, Jacques, suis-moi. Matthieu chapitre 11, versets 28, 29, 30. Venez à moi, vous êtes fatigués, épuisés. Apprends de moi, suis-moi. C'est l'appel d'un disciple. Dans l'Antiquité, en Israël, c'était normal d'avoir des disciples. Les gens ne sont pas juste croyants qui restent dans ces vies, ils sont en train de marcher avec les disciples. En Japon et en Chine, dans les arts aïkido, kung-fu, karaté, traditionnels, nous avons, c'est notre domaine, mais nous avons ce concept d'un disciple. J'étais un disciple dans ce cadre. Un étudiant qui est habité pour un certain temps, 2 semaines avec un maître. Et j'étais conduit par lui dans le chemin d'aïkido. Certains font ça toujours en Japon et en Chine, peut-être dans des autres pays orientaux. De savoir le concept en humanité d'être un disciple. Philosophes, anciens, grecs, qu'est-ce que nous avons dans les philosophes grecs? Les disciples qui suivent, qu'est-ce que nous avons avec les pharisiens et les sadduciens? Paul lui-même dit, j'étais un disciple de Galamel. Donc nous avons le même concept. Nous avons perdu ça. Nous avons perdu ça dans nos églises. Nous avons maintenant les gens qui viennent. Et c'est bien. On aime quand nous sommes ensemble. Mais le concept d'un disciple est quelqu'un qui suit. Nous sommes en train ensemble de suivre le Seigneur. L'Institut biblique est une façon de former les disciples parce qu'on est sous la parole de Dieu et on est ensemble physiquement dans une salle en train d'apprendre. Et l'enseignant, le pasteur enseigné, est aussi en train d'apprendre aussi pour son corps afin que son cœur soit transformé, afin qu'il puisse aider les disciples de marcher. Il est un disciple et il suit les disciples des autres. Est-ce qu'il y a certaines formes de disciples? Oui, Pasteur Schaller toujours suit les enseignements de Pasteur Stevens, qui a enseigné combien des années? 40 ans. Son héritage est toujours là sur le site web. Nous avons la possibilité d'écouter des messages des années et des années. Oui, on est en train de suivre Dieu et on est en train de suivre quelqu'un qui est en train de suivre Dieu. Paul a dit, imitez-moi. Ça veut dire, copie ma foi, pas ma vie, pas ma chair, pas mes habitudes, mais copie, vois mes décisions de la foi que je prends et suis-moi. Donc Jésus a formé 12 disciples, 3 ans demain. C'est un institut biblique en train de marcher. C'était en transportation, en mouvement, en permanence, un disciple. Et dans cet mouvement, pour des années d'être un disciple, notre appel est découvert. Parce qu'on est déjà dans une église locale et on est déjà sauvé. Donc on a une relation avec Dieu, ça veut dire qu'on peut écouter avec nos propres oreilles de la foi quand Dieu parle. On est tous redevables pour nos décisions. Je ne donne pas les décisions aux gens et dis il faut que vous fassiez ça, non. Je ne gouverne pas les vies de notre ensemble. Chacun peut choisir pour ses vies. Vous êtes libre de marcher et vivre vos vies par la foi. Moi, je suis là pour aider, pour servir, afin que vous pouvez choisir les propres décisions devant le Seigneur pour vos vies. Un disciple. Et donc, l'Église, il y a une formation pour les disciples. C'est une façon continuelle. On va aller à Sion. On va aller ensemble. On va découvrir ce que le Seigneur va faire. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Aucune idée. On va aller ensemble, rester dans un endroit, évangéliser, prier, avoir la communion ensemble, peut-être manger, j'espère. Et on va rester pour un certain temps. Oui, le sujet de pizza, manger, ça c'est une autre chose. Sachant cette chose, on découvre ensemble, on goûte que le Seigneur est bon dans une réalité spirituelle. Dernière chose, la mission. Livre des Actes parle de mission. C'est des actes de le Saint-Esprit, pas juste les actes des apôtres. Parce que le Saint-Esprit qui bouge, c'est la vie mouvementée de le Saint-Esprit dans l'Église, le cadre de l'Église. Et on a appelé comme eux. Ce n'est pas changé depuis 2000 ans. C'est toujours le même, la mission. La mission. Actes chapitre 13, versets 1, 2 et 3. Paul amené avant en Actes chapitre 11 par Barnabas à l'église d'Antioche. Ok, Paul, tu es seul, tu es à Tasse, de nouveau, seul dans ta vie. Tu es un apôtre, mais tu as un appel. Et tu as un appel dans le cadre de l'église. Donc Paul, si tu restes seul à Tasse, tu ne vas jamais arriver dans l'appel que Dieu a pour toi. Viens avec moi à l'église d'Antioche parce que je vois la grâce de Dieu. Je vois la vie de Dieu dans cette église à Antioche. Voilà. Actes chapitre 13. Nous avons des prophètes, nous avons des enseignants. Nous avons aussi un pasteur enseignant à l'église d'Antioche. Et dans, sur la couverture de cette église, Paul a grandi dans son appel. Il commence à découvrir, il a écouté. Et dans un moment précis, en plein service de l'église, le Saint-Esprit dit, « Mets à part pour moi, Paul et Barnabas, pour l'œuvre que je prépare. » C'est verset 2, si je ne trompe pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'église, tous les membres mis les mains, imposé, les anciens ont mis les mains sur Paul et Barnabas. Saul, dans cette époque, prie pour, ils ont prié, ils ont voyé. Donc, ça, c'est quelque chose d'autre. Peut-être ce n'est pas pour aujourd'hui. On est envoyé en mission. On ne choisit pas d'être dans notre propre mission. Je sens que je veux être quelqu'un, un missionnaire en Bosnie. Donc, voilà, je vais aller. Oui, mais est-ce que le Saint-Esprit a parlé aussi et dit l'Église? Parce que tu es parti d'un cours de l'Église locale. Une façon d'écouter objectivement et pas subjectivement juste à moi. C'est moi qui décide, c'est moi qui accomplis le plan. Non, c'est l'Église qui va écouter la volonté de Dieu et dans le moment précis, dit, OK, c'est le moment pour partir. Tu vas sentir dans ton propre cœur, mais c'est toujours couvert dans le gouvernement de l'Église. Ça veut dire toujours il y a un autre dans les choses que Dieu fait. Mission. Donc, Actes, nous avons des missions, des voyages de Paul. Nous avons le voyage de Pierre, vers le centurion Corné, Actes chapitre 10. OK. Tu vas aller là, tu vas prier avec Corné, tu vas prier, le Saint-Esprit va descendre. Une église et établit une église locale à Césarée avec Corneille, dans sa maison, avec ses amis, ses serviteurs, etc. Tout ça pour dire, ça c'est des appels. Et on va découvrir notre appel unique dans la mission. Et le dernier point, et je vais finir avec ça, qu'on voit tout ça. Première chose, tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Le saluer pour la gloire de Dieu, d'être planté et installé dans une église locale pour la gloire de Dieu, d'être formé pour un disciple et pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire de l'homme. Personne ne peut se vendre dans la présence de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1. Personne n'a le droit de faire ça. Tout est par la grâce. Ephésiens chapitre 2, verset 8. Que le salut est un don gratuit. Ce n'est pas une œuvre de l'homme afin qu'il ne peut pas vendre. Il ne peut pas dire, c'est moi. Pour la gloire de Dieu. La mission est pour la gloire de Dieu. Pas pour moi, pas pour une assemblée, pas pour une dénomination ou un ministère. Tout est pour sa gloire. On va avoir des échecs. On va avoir des moments de faiblesse. Mais dans cette faiblesse, le Seigneur est en train d'œuvrer. C'est pour sa gloire. Donc, la gloire de Dieu. Deuxième chose, c'est pour appeler ceux qui sont toujours dans les ténèbres. Le but de nos appels est d'être une armée pour réveiller le peuple qui ne connaît pas notre Dieu. Le but de cette église n'est pas pour payer les factures. Le but de cette église n'est pas pour payer ma salaire. Le but de l'église n'est pas pour avoir une école, une église dimanche matin, à un institut biblique et un cours peut-être et l'évangélisation. Le but de l'église est de former les disciples, gagner le temps, sauver des âmes. Pendant que nous sommes sur la terre, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas, voilà, nous sommes une église. Un jour, cette église, et le panneau va être resté peut-être, si on est toujours là dans ce moment, le panneau va rester dehors, église de la grâce de Genève, mais l'église va être au ciel. Et quelqu'un va frapper à la porte, personne ne va répondre. Pas un culte dimanche matin, qu'est-ce que se passe? Je pense qu'il est un culte dimanche matin, mais ce n'est pas ici. Physiquement, dans la salle, c'est ailleurs. Beaucoup plus aéré, on n'a pas besoin de masque non plus. Ça, c'est une bonne chose. Pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour sauver des âmes. Et dernièrement, on va descendre pour cette camp. Et on va profiter du camp. Mais sachant qu'on est encore connecté, c'est la dernière chose que je vais dire. Chacun est connecté. L'épître d'Éphésiens parle que les apôtres, les prophètes, les docteurs, etc., tout ça sont des dons donnés par Jésus-Christ, donnés aux hommes. Et après, nous avons ce verset qui parle de « on est tous connectés » et que chaque membre, dans cette connexion, nourrit l'autre. Ça veut dire que ce qui passe dans le camp d'été à Montméral, ça va être quelque chose qui va passer dans le corps de Christ pour nourrir chacun de nous. Ça veut dire un message ce matin, prêché par Pasteur Texé à Montmirail, va être nous nourrir aussi. Ça veut dire ce qui est prêché dans les églises à Genève va nourrir le corps de Christ. Ce n'est pas les dénominations. La vie de Dieu est transmise. Et on va tous être bénéficiaires de la vie de Dieu dans le corps de Christ. Global, universel et local. Si nous pouvons comprendre que nous avons un appel et les types, catégories des appels, je pense que c'est un encouragement pour nous de marcher et aller. On avance. Et dernière chose, si on marche avec lui dans ses appels, on va être sauvé, délivré de la tyrannie de notre ancienne nature qui nous pousse à tirer la poussière. En réalité, c'est la vie. On est appelé à ça. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour ce culte. C'est le 1er août et nous avons un message sur l'appel de Dieu dans nos vies. Je sais que tu es en train d'enregistrer ce message dans nos pensées, dans nos âmes, par le Saint-Esprit pour être rappelé après un autre moment. On sait qu'il y a des gens peut-être aussi, certainement ceux qui sont connectés par Zoom, mais des autres peut-être pour écouter le message affiché sur le site une autre fois. Touche ces cœurs, Seigneur. Le message ne reste pas pour un dimanche matin, c'est pour l'éternité. C'est le cœur de Dieu. Merci, Seigneur. Merci. Toute la gloire pour toi, Seigneur, dans nos vies. Et prépare-nous pour être des ambassadeurs et des intercesseurs pour la Suisse, la France, toute Afrique, toute Europe, toute États-Unis, Sud et Nord, tout le monde, parce que nous sommes le corps de Christ universel. On est là pour les âmes. Merci Seigneur. Bénis notre journée. Amen.